Europe 1.
Europe 1. 15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes en 1898 et Harry Houdini, un jeune homme de 24 ans, fait régulièrement la une des journaux de la ville de Chicago, aux États-Unis. Le magicien, qu'on surnomme déjà le roi des menottes, défie la police de la ville de le retenir enfermé, menottes au poignet plus d'une heure, dans une cellule de la prison d'État. Lorsqu'il arrive un beau matin à la prison entourée d'une horde de journalistes, il accoste un lieutenant en lui disant l'air goguenard « J'ai besoin que vous m'enfermiez dans une cellule ». C'est naturellement le directeur de la prison en personne qui l'accueille et, vous l'aurez compris, ce directeur n'a pas l'intention de se faire avoir par un saltimbanque de passage. Il en va de la réputation de la police et de la prison. Il ordonne donc au médecin une fouille approfondie du délinquant volontaire qui se prête au jeu avec un malin plaisir, tandis que les gardiens vérifient la qualité des menottes et des serrures de la cellule. Tout semble parfaitement normal et le médecin, habitué aux fouilles dans cette ville de gangsters, passe cet Olibrius de magicien au peigne fin. Il n'a rien trouvé, pas une clé, pas un clou ou un quelconque rossignol. Le directeur ordonne donc qu'on lui passe les menottes et on l'enferme dans la cellule avec la certitude qu'il n'en sortira tout simplement pas. Forcément, il va falloir attendre une heure avant d'aller le libérer, alors le directeur offre à boire aux journalistes dans son bureau. Seulement voilà, les journalistes viennent à peine de se servir, Houdini rentre en trombe dans le bureau, libre de toute entrave, sous le regard sidéré de l'Assemblée. Très vite, les journalistes soupçonnent l'artiste de dissimuler un passe-partout, d'avoir acheté la complicité d'un agent. Mais Houdini, avec un calme olympien, rassure l'Assemblée et se propose de refaire l'expérience complètement nu après une nouvelle fouille. On l'enferme donc, en tenue d'Adam, dans une cellule, tandis qu'on entrepose ses vêtements dans une autre cellule, également close. L'attente reprend dans le bureau du directeur, qui voit arriver, telle une apparition divine, Houdini tout habillé, sourire aux lèvres, moins de 3 minutes après son incarcération. Ce jour-là marque une étape dans la fabuleuse carrière d'Harry Houdini, qui est sorti des salles de spectacle pour défier rien de moins que la police de Chicago. Je ne vous dirai pas comment il a bien pu s'échapper, mais croyez-moi, à cette époque, cet ancien serrurier dispose déjà chez lui de la plus fabuleuse collection de livres sur les menottes du monde entier. Finalement, je vais quand même vous le dire, puisqu'il en a lui-même exceptionnellement livré le secret. Ce jour-là, Houdini a dissimulé un passe-partout dans son œsophage, une technique qu'il a apprise d'un avaleur de sabre rencontré dans les foires. Mais ce qui le rend vraiment surprenant, c'est son sens du spectacle qui va très vite faire de lui le maître d'une nouvelle discipline, l'escapologie. Son premier exploit date du 24 mars 1874, il y a 150 ans presque jour pour jour, lorsqu'il s'évade du ventre de sa mère après 7 mois seulement d'incarcération. Vous l'aurez compris, pour raconter la vie d'Houdini, Erich Weitz de son vrai nom, il faut s'accrocher tant la légende se mêle aux faits historiques. Ce que l'on sait, c'est qu'il est bien né à Budapest, en Hongrie. Son père est un rabbin qui s'est exilé seul aux États-Unis en 1876 afin d'y trouver une charge dans une synagogue à Appleton, dans le Wisconsin. Une fois installé, le reste de la petite famille, la mère d'Erich et ses frères, le rejoignent en 1878. Mais le rêve américain se fait attendre et ce sont des années de misère qui s'annoncent pour ses 7 frères et sœurs. Mais les enfants, vous le savez, s'émerveillent de tout. Et Erich n'a que 7 ans lorsqu'il a son premier flash artistique. Il observe cet artiste qui marche sur un fil tendu dans la rue principale de la ville avant de se suspendre par les dents à la corde. Vous avez compris la suite ? Dans l'après-midi, le jeune Erich se débrouille pour tendre une corde et perd 5 dents d'un coup car l'artiste qu'il a voulu imiter avait naturellement une prothèse dentaire pour effectuer son tour. Sa carrière artistique commence donc chez le dentiste. Mais c'est en 1883, à 9 ans seulement, que le futur Houdini se produit pour la première fois dans un théâtre comme contorsionniste, acrobate, fildéferiste, escamoteur et trapéziste et se fait annoncer comme Erich, le prince des airs. Son tour favori, c'est celui de la chute de l'homme mort. Et après avoir ressuscité, on dit de lui qu'il pouvait se pencher en arrière et ramasser une épingle entre ses paupières. De toute évidence, le jeune homme a des dons peu communs et il poursuit sa carrière comme magicien dans les foires, accompagné de son frère cadet, Théodore, ou Théo Hardin sur scène. Ensemble, les deux garçons arpentent les scènes sous un autre nom, choisi en référence au génial magicien français Jean-Eugène Robert Houdin, qu'Héry admire tant. Ils sont les frères Houdini. Puis en 1893, une jeune femme, Wilhelmina Beatrice Rana, qui se fait appeler Bess Raymond, rejoint le duo Houdini. C'était écrit « Celui qui s'est choisi Harry comme prénom, notre héros du jour, en tombe amoureux et ils se marient la même année. » Bess devient son assistante sur scène et Harry se sépare de son frère. Tous les deux enchaînent les tours, dont celui de la femme qui apparaît et disparaît. Pourtant, cette vie d'artiste ne lui permet pas de vivre correctement. Dans un article autobiographique publié en 1909 à Londres, Harry Houdini parle de ces années dures et cruelles où j'avais rarement le strict nécessaire, écrit-il. Il fait tous les métiers possibles, vendeur de cravates, coursier, photographe, mais surtout apprenti serrurier. C'est au cours de ce travail qu'un jour il voit arriver un policier avec une petite frappe de la ville qui venait de se faire arrêter. Le jeune voyou, pensant ouvrir les menottes avec l'une de ses clés, l'a cassée à l'intérieur de la serrure. Le patron d'Houdini, pressé d'aller dîner, lui demande de couper les menottes avec une scie à métaux. L'acier était trop dur, se souvient Houdini, qui casse plusieurs lames et se décide alors à crocheter la serrure. « J'ai réussi à le faire et la manière dont je l'ai fait, explique-t-il, contenait le principe de base que j'ai utilisé pour ouvrir les menottes partout dans le monde par la suite. » Naturellement, il propose ses tours de menottes à tout le monde, sans grand succès au départ. Mais lorsqu'il monte sur scène avec sa femme Bess, il perfectionne son célèbre tour de la malle des Indes, qui le voit disparaître menotté dans une malle cadenassée, avant de réapparaître 3 secondes plus tard, totalement libre de ses entraves, tandis que sa femme se trouve à sa place, menottée dans la malle. Ce tour est un véritable tour de force. Non seulement il apprend à se libérer de tous les types de liens, que ce soit des cordes, des menottes ou des chaînes, mais il le fait avec des vraies menottes que lui apporte parfois un policier dans la salle. De la même manière, il interpelle les marins présents pour l'attacher le plus solidement du monde et prouver ainsi qu'il dépasse absolument toutes les limites de l'impossible. Il faut s'arrêter un instant sur le phénomène Houdini qui ira de plus en plus loin dans ses tours, jusqu'à parfois risquer sa vie pour impressionner le monde. C'est un athlète hors du commun. L'étreinte de ses doigts ressemble à des pinces d'acier. Il défait des nœuds avec ses doigts de pied et s'entraîne à résister au manque d'air lorsqu'il est enfermé dans des malles. La chance lui sourit en mars 1899 lorsqu'un certain Martin Beck assiste au spectacle d'Houdini dans une petite salle de la ville de Saint-Paul dans le Minnesota. Ce soir-là, Beck le met au défi d'échapper à l'une de ses menottes qu'il pose sur la scène devant un public abasourdi. Mais il les enlève les unes après les autres sans que personne ne comprenne rien à son truc. Beck est en réalité un manager qui va l'embaucher, en lui conseillant de ne garder que son tour des menottes ainsi que celui de la malle. « C'est le premier coup de chance que j'ai jamais eu », explique Houdini. Et ce coup de chance va l'amener vers une tournée triomphale en Europe. Harry Houdini a 26 ans lorsqu'il débarque en Angleterre en juin 1900 et il se fait embaucher à l'essai par Dundas Slater, le directeur de la prestigieuse salle de spectacle de l'Alhambra à Londres. Son credo, qui impressionne les foules, est toujours le même. Il accepte de se libérer de n'importe quel type de menottes apportées par une personne du public. En lisant le dossier de présentation d'Houdini, le directeur de l'Alhambra lui propose alors un marché en or. Si Houdini parvient à se libérer de menottes apposées par un inspecteur de Scotland Yard, il lui offre un contrat d'une durée illimitée comme tête d'affiche. Rendez-vous est donc pris avec le superintendant Melville dans les locaux des superflics londoniens. Melville, sûr de son coup, accepte le défi et conduit Houdini dans le couloir. Il demande au magicien d'entourer une colonne de ses bras avant de lui passer les menottes autour des poignets. Melville explique, un brin sarcastique au directeur de théâtre Slater qui l'accompagne, qu'il viendra délivrer son poulain dans 1 heure ou 2. Alors que les deux hommes font demi-tour et s'éloignent, ils entendent la voix d'Houdini leur dire avec gourmandise « Si vous retournez à votre bureau, attendez-moi, je vous accompagne ». En se retournant, les deux hommes, ahuris, découvrent le magicien libre de toute entrave qui jubile comme un sale gosse. Évidemment, il signe avec le directeur de l'Alhambra un contrat mirifique qui le met en tête d'affiche pendant 6 mois. Puis le roi des menottes triomphe dans toute l'Europe, à Paris, Cologne, Berlin et même Moscou. D'ailleurs, à Berlin, les meilleurs serruriers le mettent à l'épreuve et l'Inde confesse que ses 30 ans de métier ne valent rien face à la science de l'énigmatique américain qui ouvre absolument toutes les serrures. Les plus célèbres fabricants de coffres-forts font d'ailleurs appel à lui à cette époque, non pour tester l'inviolabilité de leurs coffres, mais simplement pour mesurer le temps qu'ils mettraient à les ouvrir. Autant vous dire que le magicien donnait des sueurs froides à tous les fabricants de serrures. À Moscou, durant l'été 1903, Houdini défie la police tsariste en se laissant enfermer dans un fourgon blindé de prisonniers en direction de la Sibérie. Mais la clé qui ferme le fourgon n'est pas la même que celle qui l'ouvre et qui se trouve en Sibérie. « Si j'avais raté mon évasion, explique Houdini, j'aurais dû attendre de me faire délivrer en Sibérie par le gouverneur général qui seul possède la clé. Mais je suis sorti en 20 minutes. » Il termine sa tournée européenne en apothéose par une immersion enchaînée dans la Tamise, dont il ressort évidemment libéré. Lorsqu'il revient aux États-Unis en septembre 1905, Houdini est une véritable star à la psychologie complexe. À la fois vaniteux, mégalomane, narcissique, ambitieux, il sera aussi celui qui, tout au long de sa vie, viendra en aide à une vingtaine de magiciens qui réussissent moins bien que lui et à qui il payera même une pension. C'est un grand gamin espiègle, mais pour déjouer la lassitude d'un public déjà habitué au grand spectacle, il pousse ses tours encore plus loin, flirte souvent avec la mort et confiera un jour « Le plus difficile a été de vaincre ma peur ». Fin 1906, devant une foule angoissée et grelottante, Houdini, vêtu d'un simple maillot de bain, se laisse mettre les menottes et plonge dans la rivière glacée de Détroit par un trou d'un mètre de diamètre percé dans la glace. Même sa femme Bess est inquiète et au bout de 5 minutes, son assistant fébrile plonge une corde lestée dans le trou béant afin de l'aider à remonter. Ce n'est qu'au bout de 8 minutes qu'Houdini émerge enfin, crispé et au bord de l'agonie. Emporté par le courant, il a eu du mal à revenir et ne doit sa survie qu'à cette corde qui lui a indiqué la sortie. À partir des années 1908, après ses 34 ans, le magicien américain multiplie les numéros de trompe-la-mort, tous plus impressionnants les uns que les autres. Un matin, les New-Yorkais sont tirés de leur torpeur par un individu suspendu la tête en bas, en haut d'un building de 10 étages, pendu par les pieds, en se défaisant de sa camisole de force devant des spectateurs médusés. Poussé par la démesure, il proclame aux journalistes être capable de sortir de n'importe quel récipient fermé, des boîtes en verre, des chaudières en fer riveté, des coffres à piano doublés de zinc, des cages en fer ou des coffres-forts anti-effraction. Du roi des menottes, il devient vite le roi de l'évasion, car il ne connaît aucun échec. Lors de l'enfermement dans un coffre, Harry Houdini ménage ses effets et explique au public que sa libération peut prendre de 1 à 2 heures, en soulignant astucieusement au début du spectacle le risque d'asphyxie s'il ne sort pas à temps. L'orchestre, les lumières, le paravent crée une atmosphère oppressante, puis le petit génie sort enfin en sueur, les cheveux hirsutes, s'épongeant le front sous l'ovation du public, soulagé. Ses tours les plus célèbres seront ceux du Pot-au-Lait ou encore la pagode chinoise de la torture, dans lesquelles on le plonge menotté la tête en bas dans un récipient en verre rempli de liquide, duquel il tente de ressortir vivant. Houdini réussit l'incroyable exploit de forger sa propre légende par des tours qui frisent parfois, comme nous allons le voir, avec le miraculeux. En 1911, Harry Houdini, qui prétend pouvoir s'échapper de n'importe quelle boîte, donne rendez-vous au public dans un cimetière où il va se faire enterrer vivant dans un cercueil vissé et plongé dans une fosse de 2 mètres de profondeur que les fossoyeurs rebouchent. Au bout d'une demi-heure, on voit sortir de la terre battue le visage crispé du magicien de 37 ans, visiblement revenu d'entre les morts. Le public à l'époque est tellement subjugué qu'il commence à voir en lui un homme au pouvoir surnaturel. Dépassé au-delà de ses espérances par son succès et la portée de ses prétendus pouvoirs, Houdini se voit contraint d'expliquer au grand public qu'il n'y a rien de surhumain dans ses tours qui sont tous explicables. Il a même publié plusieurs ouvrages dévoilant pas mal d'entre eux. Le manuel du malfaiteur en 1906, Le secret des menottes en 1909, Le manuel des nœuds magiques ou encore Les faiseurs de miracles et leurs méthodes en 1920. Mais rien n'y fait. L'auteur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, adepte du spiritisme, voit en lui un être aux pouvoirs exceptionnels, tout comme l'actrice française Sarah Bernhardt, qui lui demande un soir de 1917, le plus sérieusement du monde, alors qu'elle joue à Boston, s'il n'aurait pas la possibilité de lui ramener sa jambe perdue suite à une tuberculose osseuse du genou. Houdini est devenu pour beaucoup une sorte de super-héros avant l'heure, capable de cicatriser toutes les plaies humaines. Les films Marvel n'ont rien à envier aux films muets, dans lesquels Houdini joue entre 1918 et 1922 des rôles de héros confortant sa légende de surhomme que personne ne peut jamais retenir. Citons la série Houdini, le maître du mystère, et le film L'homme de l'au-delà, réalisé par Burton King. Mais derrière l'écran, mettant en scène ce fascinant mentaliste au corps d'athlète et au regard perçant, se cache aussi un petit enfant perdu et hypersensible qui ne se remettra jamais de la mort de sa mère en 1913. Lorsqu'elle meurt, il est sur un paquebot en route pour l'Europe. Sa femme Bess se souvient qu'une nuit, au cours de la traversée, Houdini s'est réveillé dans sa cabine en proie à une inextinguible crise de larmes. Arrivé au port de Hambourg, il reçoit un télégramme de son frère Théodore l'informant que leur mère est morte d'une crise cardiaque 3 jours plus tôt, exactement au moment où Houdini s'est réveillé dans la nuit en pleurant, expliquera sa femme Bess. Pendant plusieurs mois, Houdini sombre dans le désespoir et étudiera désespérément durant plusieurs années la possibilité de rentrer en communication avec sa mère défunte. Le 17 juin 1922, l'écrivain anglais Conan Doyle est de passage à Atlantic City et propose à son ami Harry Houdini de monter dans sa suite de l'hôtel Ambassador. Sa femme, Lady Doyle, serait rentrée en contact avec la défunte mère d'Houdini, ce qui intrigue au plus haut point le magicien curieux. « J'étais prêt à croire, et même je voulais croire », explique Houdini dans Un magicien chez les médiums. Alors que Sir Conan Doyle baisse les stores pour tamiser l'atmosphère, Lady Doyle rentre en transe comme saisie par un esprit. Puis dans une écriture automatique, elle délivre un message de la mère d'Houdini en anglais alors que la pauvre femme ne parlait pas cette langue. « Même si j'y mets la meilleure volonté du monde, cette lettre ne peut en aucun cas avoir été écrite par l'âme et l'esprit de ma douce mère », écrira Houdini suite à cette séance, car sinon, il aurait senti sa présence. En 30 ans, Houdini explique avoir passé un accord avec 14 personnes différentes qui, une fois mortes, devaient communiquer avec lui selon un message codé qu'eux seuls connaissaient. Mais il n'a jamais reçu de leur part le moindre mot, pas un seul signe, rien qui ne puisse militer pour la réalité de ces phénomènes. Malgré un véritable mysticisme et un culte pour sa mère défunte, Houdini passera le reste de sa vie à démasquer les faux médiums un peu partout dans le monde. Comme l'explique notre invité cet après-midi, François Monbira, l'éditeur et traducteur de l'ouvrage d'Houdini, Un magicien chez les médiums, il a toujours expliqué que ces trucs étaient au service du divertissement du public, au contraire de faux sorciers qu'il utilise pour exploiter les naïfs et les âmes en perdition. Un gamin qui voulait rentrer en contact avec sa mère disparue, il a dit un jour « Il n'y a rien à faire, mon garçon, c'est dur, mais nous devons souffrir seuls, sans espoir. » Pourtant, en octobre 1926, Houdini va vivre une expérience étrange, racontée par son ami et confrère magicien Joseph Dunninger. Houdini demande à Joe de venir le chercher en voiture chez lui à New York pour repartir en tournée au Canada. Lorsqu'il arrive, Houdini est sur le pas de sa porte sous la pluie avec de vieux vêtements et un chapeau de paille détrempé. Il s'arrête acheter des sandwichs, puis passe par Central Park lorsqu'Houdini empoigne le bras de son ami en train de conduire et lui dit d'une voix grave et tragique « Faites demi-tour, Joe, à la maison, vite !» Arrivé près de chez lui, il lui dit sur le même ton « J'ai vu ma maison pour la dernière fois, Joe. Je ne la reverrai plus jamais. » Malheureusement, ce pressentiment d'un drame va s'avérer tragiquement juste. Le matin du 22 octobre 1926, Harry Houdini est au Princess Theatre de Montréal où il prend la pose devant un jeune artiste peintre qui fait son portrait. Une accalmie dans sa tournée de magicien. C'est alors qu'il reçoit la visite de Jocelyn Gordon Whitehead, un étudiant de l'Université McGill de Montréal qui aurait tout aussi bien pu rentrer avec une faux et une longue capeline noire. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut dire qu'Houdini, chaque soir, se vante d'être invincible et pour le prouver, il demande à un spectateur de lui infliger un coup de poing dans le ventre. Naturellement, lors de ces soirées, un athlète de son acabit contracte ses abdominaux et encaisse les coups avec assurance. Mais cette fois, c'est l'étudiant canadien, un boxeur amateur, qui veut en avoir le cœur net. Il demande donc à Houdini s'il peut encaisser un coup dans le ventre. Naturellement, Houdini lui répond que oui, mais l'étudiant, sans attendre, se jette sur lui et le frappe sans avertissement, plusieurs fois dans le bas-ventre. L'invincible Houdini est perclu de douleur et tombe malade quelques jours plus tard, alors qu'il est en tournée à Détroit. Malgré 42 fièvres, Houdini refuse d'annuler sa représentation qu'il termine à l'agonie. Le 31 octobre, le magicien est terrassé à 52 ans par une péritonite. Même s'il souffrait de maux de ventre depuis quelques mois, il semble évident que les coups portés par l'étudiant n'ont pas dû arranger les choses. On raconte que le jour de l'enterrement d'Harry Houdini, le 4 novembre 1926, alors qu'on descend lentement le cercueil dans la fosse, le grand producteur de music hall, Florence Ziegfeld, se serait penché vers son voisin et en murmurant « Je vous parie qu'il n'y est déjà plus ». Pour François Montmirel, l'éditeur des œuvres d'Houdini en français, il personnifie encore aujourd'hui l'illusionniste dans toute sa splendeur, capable de prouesses surhumaines. Dans son genre, il eut un digne successeur en la personne de David Copperfield. Quand on cherche à citer le nom d'un magicien célèbre, c'est presque toujours l'un de ces deux-là qui vient à l'esprit.